en dirait des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. C'est l'un des grands paradoxes des sociétés occidentales contemporaines. Dans notre monde hyper connecté, le sentiment de solitude progresse, y compris dans les villes. La solitude concernerait plus de 5,5 millions de personnes en France, selon une récente enquête de l'Institut BVA, qui révèle que 40% des Français déclarent l'avoir personnellement vécu. Les plus concernés seraient les jeunes. Dans son nouveau film, Cédric Clapiche met en scène deux d'entre eux, incarnés par Anna Girardot et François Civil. Ils vivent côte à côte, mais ne se connaissent pas. Ils font face au même mal-être et essaie de s'en sortir. Vont-ils se rencontrer et trouver l'amour ? Deux mois, le nouveau film de Cédric Clapiche sort mercredi sur les écrans français et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Cédric Clapiche. Vous étiez venu nous voir il y a deux ans pour votre film « Ce qui nous lie », qui nous emmenait dans un vignoble de Bourgogne. Dans ce film, il y avait parmi vos acteurs principaux Anna Girardot et François Civil, que l'on retrouve dans deux mois. Est-ce que, humainement parlant, il y a une continuité entre les deux films ?
Oui, bien sûr. Non, j'ai beaucoup aimé travailler avec eux dans « Ce qui nous lie ». C'était le cas d'ailleurs avec Pio Marmaille aussi. Et j'ai eu envie d'approfondir en tout cas les liens et ce qui nous lie à nous. Et donc c'est vrai que quand j'ai fait deux mois, j'avais tout de suite en tête Anna Girardot et François Civil en me disant qu'ils étaient vraiment les deux personnes idéales pour jouer ces deux rôles.
Ouais. Le film a été écrit pour eux.
Oui.
Parce que ce qui nous lie, ce qui lie les êtres humains, c'est un petit peu finalement le résumé de toute votre carrière de cinéaste.
Oui, c'est vrai que le fil rouge qu'il peut y avoir donc j'ai fait 13 longs métrages, c'est toujours le rapport de l'individu à un groupe. C'est comment un groupe se forme. Donc ça peut être un couple, ça peut être un groupe de copains, ça peut être une famille, ça peut être un quartier, ça peut être une entreprise. Mais c'est toujours ça, c'est comment les choix individuels se mélangent à des choix collectifs ou sociaux.
Alors là, on est plus près des poupées russes, de l'auberge espagnole, de Castets chinois, peut-être aussi de chacun cherche son chaque de ce qui nous lie, mais vous êtes effectivement, Cédric Clapiche, un cinéaste de la relation humaine et de la relation urbaine aussi, dans tous les sens du terme, hein, c'est-à-dire une relation respectueuse, une relation d'ouverture à l'autre, et puis une relation de la ville. Qu'est-ce qui vous intéresse d'ailleurs dans la ville que vous filmez, en l'occurrence là c'est Paris dans ce film-ci.
Disons que je crois que c'était en 1900 où il y avait 90% de gens qui vivaient à la campagne et 10% de gens qui vivaient à la ville, et le rapport s'est inversé, on est à moins de 10% de gens qui vivent à la campagne et 90% de gens qui vivent à la ville aujourd'hui. Donc moi je suis juste un enfant de la ville, je suis né à Paris, j'ai toujours vécu à Paris, et c'est vrai que j'aime bien être le témoin, disons, de ce qu'est la vie urbaine, avec ce besoin qu'ont les gens de vivre ensemble, les entassés ou dans les rues, donc j'aime bien parler de ça.
Le témoin, nous dites-vous, alors témoin, on pense tout de suite à documents, documentaires, certains pourraient dire journalisme, certains pourraient dire sociologie, vous considérez aussi le cousin en tant que cinéaste de ces fonctions-là de la société ?
Bien sûr, ouais, parce que moi, au début, quand j'écris un scénario, il y a toujours un côté journaliste, sociologue, ce que vous avez énuméré. Je fais une espèce d'enquête, et par contre, j'en tire pas les mêmes conclusions que les journalistes ou les sociologues. Donc, moi, c'est des choses qui sont plus, justement, à montrer visuellement. C'est-à-dire que quand j'ai étudié le monde de la finance dans Ma part du gâteau, je parlais plus de comment Gilles Lelouch allait incarner un personnage de trader en étant rivé à son téléphone portable, en écoutant à peine les gens à qui il parle. Donc ça, c'est des choses qui vont pas intéresser un journaliste. Par contre, on parle de la même chose parce que dans ce film-là, c'était comment la crise financière a fabriqué une crise sociale. Et ça, c'est des choses qui peuvent être dénoncées dans les journaux aussi. Donc là, que ce soit dans Ce qui nous lie, où je parle du monde des vignerons d'aujourd'hui, avec le problème du bio, le problème des femmes qui deviennent vigneronnes, ou là, dans deux mois, où il y a un mélange entre deux célibataires qui trouvent pas l'amour et qui sont seuls et qui sont en même temps entourés de plein de gens. C'est des sujets qui peuvent intéresser des journalistes et des réalisateurs.
Donc deux solitudes dans la multitude, dans la foule, dans une grande ville, en l'occurrence Paris. Vous l'aimez le Paris d'aujourd'hui, Cédric Clapiche ?
J'aime beaucoup le Paris d'aujourd'hui, avec toutes ses contradictions et ses bizarreries et ses problèmes. Comme tout le monde, j'ai les mêmes problèmes que tout le monde sur la circulation, sur le fait que le métro marche plutôt moins bien qu'avant, avec en même temps le fait que comme il y a des écrans qui vous disent le métro arrive dans 3 minutes, dans 1 minute, c'est plus facile qu'avant. Je trouve que attendre le métro il y a 20 ans quand on savait pas quand il allait arriver et maintenant on est un peu plus informé, je trouve que c'est une avancée. Je trouve que les Parisiens sont plus sympathiques qu'il y a 20 ans. Donc il y a vraiment à la fois des choses meilleures et aussi des reculs.
Mais certains disent que Paris est en train de devenir une ville musée. Vous partagez ce diagnostic ?
Bah, disons que ça fait longtemps que ça l'est devenu. Là, j'ai l'impression que oui, il y a toujours quelque chose qui fait que le tourisme de masse, il est compliqué à vivre pour les gens qui vivent dans les villes touristiques. Donc ça, c'est vrai à Venise, à Athènes ou à Paris. Mais c'est disons qu'à Paris, il y a les quartiers où on habite et les quartiers où vont les touristes sont pas les mêmes quartiers. Donc c'est un peu plus pratique à Paris.
Alors le quartier qui est au cœur du film, c'est le quartier de la Goutte d'Or, on est dans le 18e arrondissement, ouais, du côté de la rue Marx-Dormois, il y a relativement peu de touristes, effectivement. Pourquoi est-ce que vous avez choisi justement de focaliser, c'est le cas de le dire pour un cinéaste, sur ce quartier-là?
C'est justement parce que c'est un quartier populaire, avec ce que ça peut vouloir dire, c'est-à-dire que c'est un quartier où on habite, c'est un quartier de famille, c'est un quartier aussi multiculturel, il y a vraiment plein de communautés ethniques différentes, et avec aussi des mixités sociales, parce qu'il y a des bobos, comme on appelle ça aujourd'hui, des gens plutôt bourgeois, qui côtoient des gens qui sont vraiment pas aisés. Et du coup, c'est ce mélange de populations qui est intéressant à traiter pour moi.
Et comment on filme précisément ce quartier-là ? Parce qu'il y a des plans larges, hein, on voit le Sacré-Cœur, on voit aussi beaucoup, à de multiples reprises, les voies ferroviaires, hein, celle de la gare du Nord. Comment est-ce que vous installez justement la vie réelle de personnages dans leur vie quotidienne dans un tel décor ?
Bah, c'est justement en partant pas de la carte postale, en se disant oui, d'accord, il y a Montmartre mais il est un peu loin, Montmartre, voilà. On voit de loin le Sacré-Cœur, et donc on étant plutôt près de ce que vivent les gens. Donc moi je connais pas mal de gens qui habitent dans ces immeubles qui bordent les rails de la gare du Nord, et donc du coup ils voient passer des trains, du coup ça fait du bruit, donc ça crée des problèmes. Et puis oui, il y a différentes communautés, il y a donc les Indiens, des Maghrébins, des Africains, des Antillais, et toutes ces communautés vivent ensemble parfois avec des frictions, mais il y a plus de moments pacifiques que de moments de guerre, quoi.
Bonjour. J'ai un problème de sommeil.
J'ai un problème de sommeil en ce moment.
Est-ce que j'ai un sommeil, je dors tout le temps?
Je dors pas bien du tout.
La position dans laquelle vous vous sentez le mieux, c'est la position de leader, de suiveur?
D'accord. C'est une question.
Vous vous dites que c'était une vraie rencontre?
Mais c'est quoi pour vous une vraie rencontre?
Comment vous expliquez cette crise de panique dans le métro?
Une dépression?
Peut-être.
Non mais c'est quand même dingue de tomber sur quelqu'un qui a vraiment, vraiment, mais rien à dire. Il a pas parlé pendant une heure. Si, à un moment donné, il m'a dit...
J'ai l'impression que ça fait des années que je te cherche, quoi.
L'angoisse?
Tu te rappelles pas tourner, hein? Karine, tu vas attraper Karine Pélisson.
Ah, elle était grande.
Non, elle était grande.
D'accord, alors...
Brune.
Ouais.
Brune, elle avait les... Tu sais, elle avait les...
Ah, des boucles.
Non, les...
Ah, des dreads.
Non, des soucis dans sa tête.
Non, mais ça, c'est pas vous, ça.
Ah bon? C'est quoi, moi, là?
Il y a pesto, il y a pesto.
Il ne suffit pas d'avoir compris le problème pour pouvoir régler le problème. Et en même temps, il est absolument nécessaire d'avoir compris le problème pour pouvoir le régler. Le problème.
Ah non, pas ça, ça. Ça, c'est pas vous, ça.
Faites confiance à la vie.
Et vous avez le droit d'être heureux.
Vous avez le droit d'être heureuse.
Bah oui, tu vois, hein. Je t'arrive.
Et oui, tout arrive, Cédric Clapiche. À la fin de cette bande-annonce, on voit les façades des deux immeubles contigus dans lesquels habitent vos deux personnages principaux. Donc Mélanie, Anna Girardot, est à sa fenêtre. Et à quelques mètres à peine, il y a Rémi, donc François Civil, qui est à son balcon. Ils sont côte à côte, ils sont très près, ils ne se voient pas. Et pourtant, ils sont extrêmement proches. On a deux individus, deux parcours, deux vies parallèles.
Oui, c'est ça, ils sont voisins, l'un habite dans un immeuble moderne des années 70 et l'autre dans un immeuble plutôt haussmannien, plus ancien. Ils ont vraiment des milieux sociaux différents, des vies différentes. Et voilà, donc le but c'était de créer un suspense, c'est de savoir à quel moment ils vont se rencontrer, donc je joue à ça avec le spectateur.
Ah oui, pendant quasiment tout le film on a jeu là.
On va pas dire comment ça se termine.
Non.
Mais c'est vrai que ça crée un suspense, parce que je pense que tous on est dans cette logique là de se dire ils sont faits l'un pour l'autre, mais qu'est-ce qui va les rapprocher?
Oui, mais on trépigne, Cédric Lapiche, parce qu'on est là dans le fauteuil de cinéma et on les voit se déplacer dans leur quartier, on les voit parfois même se croiser sans se voir, hein, sans que l'un fasse attention à l'autre. Il y a effectivement un jeu comme ça avec le spectateur qui a envie de leur crier, quoi, par-delà l'écran de cinéma. Mais enfin, mais bon Dieu, parlez-vous, mais rapprochez-vous, mais regarde, elle est super jolie, mais regarde, franchement, quel beau gosse. Enfin, bon, voilà, c'est comme un vrai suspense du film et vous jouez en permanence comme ça avec le spectateur. C'était dans le scénario ou c'est venu?
Ah bah, bien sûr.
Ou c'est venu avec votre caméra et avec façon de tourner les acteurs?
C'était évidemment même non seulement le scénario, mais le but du film. Vous venez de donner les principes de la fiction. C'est-à-dire que là, ce que vous décrivez, c'est le théâtre de marionnettes avec des enfants qui disent Guignol, il est derrière, vas-y, retourne-toi. C'est le principe du suspense et de la fiction.
Alors, il y a une scène assez drôle dans une pharmacie, mais le point de rencontre, ou plutôt le point de non-rencontre par excellence, c'est une épicerie. C'est l'épicerie du quartier, l'épicerie de Mansour, jouée par Simon Abkarian.
Les olives, là, les meilleures, c'est les plus chères. Hein.
Ben oui. Vous savez, moi, dans ma boutique, je travaille deux choses. Le moins cher et le meilleur. Un jour, dans un monde idéal, le meilleur peut-être sera la même chose que le moins cher. Et ça, c'est dans un monde idéal. Bonjour. Et moi, je sais que vous avez un peu d'argent. Alors, achetez les plus chers. Parce que malheureusement, c'est vraiment le meilleur. Vous voulez que je vous serve?
Oui, d'accord.
Hamza!
Oui.
Viens, servir la demoiselle, viens.
Bonjour.
Désiré?
Je viens de Barquette.
Lesquelles?
C'est le foie.
Ah, c'est là?
Oui.
C'est le plus cher, hein?
Ouais, je sais. Merci.
Voilà, Simon Abkarian qui fait vraiment partie d'un peu de ce qu'on pourrait appeler, Cédric Lapiche, votre famille de cinéma. Il y a plusieurs comédiens comme ça que l'on retrouve. Pas forcément dans tous vos films, mais enfin dans beaucoup de volométrages. Il y a évidemment Romain Duris qui n'est pas dans ce film-ci, mais il y a aussi Zindine Soualem qui est aussi dans le film. Il y a Madame René aussi, un René Lecalme qui nous a quittés au mois de juin dernier. À part vous, Cédric Lapiche, à part vous et votre cinéma, qu'est-ce qui lie tous ces acteurs, tous ces comédiens-là? Qu'ont-ils en commun, ceux qui se retrouvent devant votre caméra?
Alors je dirais que c'est peut-être un peu prétentieux de dire ça, mais c'est une sorte d'authenticité que je cherche, moi, en tout cas, dans ces gens-là. Simon Abkarian, personne ne ressemble à Simon Abkarian en France. Il a vraiment une particularité de visage, de façon de s'exprimer. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup de théâtre et qui, là, maintenant, est de plus en plus au cinéma ou dans des séries télé. Madame René, elle est unique. C'est vrai que c'est à la fois une icône parisienne. C'est un peu comme Arletty. Elle a une espèce de façon de parler, d'avoir une langue parisienne qui est presque en voie de disparition, et j'aime bien cette authenticité-là. Et pareil avec Zindine Soualem, il y a quelque chose chez Zindine qui fait que voilà, il est dans tous mes films parce que j'aime bien son mélange entre de la tragédie et de l'humour. C'est quelqu'un, on ne sait jamais s'il faut rire ou pleurer dans ce qu'il fait.
Oui, c'est vraiment un acteur. On a un peu l'impression, Zindine Soualem, qu'on l'a toujours connu, quoi, qui fait aussi partie de notre famille à nous. C'est-à-dire, on est en permanence en empathie avec lui, quels que soient les rôles qu'il a, y compris d'ailleurs les pires peut-être.
Ouais, mais c'est justement ça s'appelle l'humanité, hein. C'est-à-dire que c'est moi j'aime bien parler des gens humains et trop humains, comme dirait l'autre.
Oui, Anna Girardot et François Civil, ils sont très humains, forcément, vous n'allez pas me dire le contraire, mais est-ce qu'ils font réellement partie maintenant de la famille, de l'écurie, Clapiche, si j'ose dire?
Oui, après, il y en a beaucoup. C'est vrai qu'il y a des gens comme, évidemment, Romain Duris, avec qui j'ai fait 7 films, Cécile de France, Karine Viard, Loukini, Juliette Binoche. Il y a eu pas mal de gens avec qui j'ai travaillé plusieurs fois, et c'est vrai que François Civil et Anna Girardot, à mon avis, c'est pas fini. C'est des grands, grands acteurs. Ils sont que au début de leur carrière. Pour moi, c'est des acteurs extraordinaires et on n'est que en train d'entrevoir leur début là.
Oui, alors justement, quand on commence à bien connaître un acteur ou une actrice, quand on commence à bien le connaître dans la vie privée, mais aussi sur un plateau de cinéma, est-ce que ça devient de plus en plus facile ou de plus en plus compliqué de les diriger?
Non, ça devient de plus en plus facile parce que plus on se connaît, mieux on les dirige. Et je l'ai vu avec Romain, puisque donc c'est avec lui que j'ai fait le plus de films, avec disons Romain et Zindine Soualem. Et c'est vrai que plus on se connaît, plus on peut les amener à des endroits auxquels ils n'ont jamais été, et en les connaissant bien de l'intérieur, de façon intime, on peut les amener vers des choses que eux-mêmes ne connaissent pas d'eux-mêmes.
Mais vous avez toujours besoin de vous parler sur un plateau, c'est pas tacite.
Oui, non, bien sûr. La direction d'acteur, c'est vraiment un métier de communication. C'est un peu comme l'épicier Simon Abkarian dans ce film, où il faut parler avec le client, si je peux dire. Donc là, avec les acteurs, il y a besoin de donner beaucoup d'indications. J'ai souvent dit d'ailleurs que le métier de réalisateur est très proche du métier d'entraîneur de football. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur le terrain, on joue pas, mais on dit aux autres ce qu'il faut qu'ils fassent. Et ce rôle-là, qui est un peu un rôle distant, et en même temps, enfin en tout cas, on l'espère, fondamental.
Et vous pouvez être dur avec eux?
Je peux être dur, oui, quand ils n'arrivent pas à faire un truc. Disons que je suis très franc. Je suis jamais autoritaire. Je pense que je suis quelqu'un vraiment dans le dialogue et dans la recherche d'une collaboration. Mais par contre, s'ils n'y arrivent pas, je leur dis on recommence parce que là, ça y est pas, quoi. Donc voilà.
Alors, dans le journal du dimanche d'hier, Anna Girardot donne une interview et elle raconte que la veille du tournage, celle qu'il dit, elle s'était faite plaquer, que vous lui avez répondu, mais c'est parfait, ça. Alors, on imagine votre enthousiasme. Alors, c'est vrai que lui, sans rôle, on dit, c'est
ça.
Parfait.
Je l'ai pas dit comme ça, bon. Mais en tout cas, non, j'étais content.
Qu'est-ce que ça tombe bien, quand même.
C'est ça, parce que c'est ce qu'elle a joué dans le film. Donc, forcément, il y avait une espèce de truc où je me suis dit, elle saura bien quelles sont les émotions explorées parce qu'elle était en train de le vivre en vrai. Donc, c'était ça qu'il y avait derrière. Après, je m'excuse directement auprès de son ex parce qu'on se connaît bien et que j'étais pas content pour leur relation, j'étais vraiment content pour ce qu'elle avait à jouer.
Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour, ma complainte et la complainte de deux cœurs, un roman comme tant d'autres qui pourrait être le vôtre, j'en dis si on vient d'ailleurs. C'est la flamme qui m'enflamme sans brûler, c'est le rêve que l'on rêve sans dormir, un grand arbre qui se dresse plein de force et de tendresse vers le jour qui va venir. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour qui s'aime joue le même, je le sais. Mais naïve ou bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui apporte chaque jour tout le bien, tout le mal, avec le boulot sans l'âme.
Gloria Lasso dans VMDN sur RFI, Histoire d'un amour, une chanson que l'on retrouve dans votre film Cédric Lapiche. On peut être surpris parce que est-ce réellement une histoire d'amour que vous nous racontez ?
En fait, j'aime bien le titre C'est l'histoire d'un amour parce que ça a un double sens. C'est l'histoire, c'est vraiment, enfin pour moi dans le film, c'est presque la préhistoire d'un amour. Donc c'est l'histoire de comment une histoire d'amour va exister. Et j'aime beaucoup cette chanson parce qu'elle dit bien. Enfin, c'est presque la chanson qui résume le film en fait. Sur comment on peut être tous attirés par l'amour, on a tous envie de tomber amoureux et puis ce chemin il est compliqué, il est différent pour chacun, mais chacun y a droit en tout cas.
Et les acteurs, Cédric Lapiche, est-ce qu'il faut les aimer pour les diriger ?
Moi je trouve, je pense pas, même il y a beaucoup de réalisateurs autoritaires, pervers, compliqués,
mais on ne citera pas de nom.
Ouais, on citera pas de nom, mais par contre dans tous les cas, ils aiment leurs acteurs. Et je pense que les réalisateurs très très durs, en général, ils aiment beaucoup leurs acteurs.
Voilà. Et est-ce qu'un acteur doit aimer son réalisateur, celui qui le met comme ça dans l'objectif et dans
Alors, je dirais que c'est moins obligatoire dans ce sens-là.
Ah oui.
C'est-à-dire qu'un acteur est moins obligé d'aimer le réalisateur, parce que justement, dans les réalisateurs durs, à mon avis, peut-être souvent, ils le détestent, mais en tout cas, je pense qu'un réalisateur est obligé d'avoir un désir ou d'avoir un amour de la personne qu'il filme.
Ça n'a pas été trop dur pour François Civil et Anna Girardot, parce que j'ai lu qu'ils avaient tous les deux entamé une psychothérapie pendant le tournage du film. C'était un passage obligé ?
Non, c'est-à-dire que c'est le travail travail que eux ont fait en se disant voilà, dans la mesure où je vais pas bien, je suis en épisode dépressif comme on dit, que dans le film je vais voir un psy, donc François Civil va voir François Berléand et Anna Girardot va voir Camille Cotin, ils se sont dit voilà, j'ai besoin de me documenter, donc chacun a été voir un psy et en fait les deux sont restés donc
ça peut de là rester croire. En analyse quand même.
Voilà, c'est ça, c'est-à-dire que au début c'était vraiment de la documentation et ensuite ils ont vu que ça leur servait que voilà, même pour exercer leur métier, je pense que c'est très utile pour un acteur.
Alors on va commencer par évoquer Rémi, hein, donc qui se retrouve effectivement dans le cabinet de François Berléand. Il n'y a pas de divan dans son cabinet, il y a juste deux chaises à roulettes comme ça, ouais. Face à face. Elles sont très très près les deux chaises, on est un petit peu à la même distance là dans le studio de VMDN que les deux personnages dans le film. Vous les filmez en plus à contre-jour, devant la fenêtre, il y a juste un petit radiateur blanc contre le mur. Comment vous avez imaginé cette scénographie-là pour cette scène ?
Justement, c'est ce qui était compliqué, c'est de parler de la psychanalyse, c'est compliqué parce que soit ça barbe tout le monde et tout le monde se dit ça n'a aucun intérêt, où tout le monde se dit c'est déprimant de voir ça, et là c'est, l'idée c'était de fabriquer de la comédie avec ça, et donc à la fois avec le fait d'être patient, là ils sont en dépression, de se dire voilà, quelqu'un qui est dépressif ça peut être drôle à regarder, et puis de voir un psy, en choisissant Berléand et Cotin, on se doute bien qu'il y a des moments un peu drôles, mais par contre le but c'était d'être sincère sur ce qui se passe dans une thérapie, et donc là par exemple François Civil n'a aucune envie d'aller voir un psy.
Non.
Il y a beaucoup de silence au début de la scène, et du coup on rit du fait qu'ils ont rien à se dire, quoi.
Vous êtes sérieux? On va se parler comme ça là?
Ben oui.
Ok. Qu'est-ce que... Je sais pas, je... Dites-moi...
Je crois que c'est plutôt à vous de me dire.
Ah.
Voilà, alors effectivement, c'est écrit de façon extrêmement simple. Il y a beaucoup de jeux, effectivement, sur les silences, sur les non-dits. On a bien compris bon, que François Civil n'est pas particulièrement à l'aise. C'est le moins qu'on puisse dire. Cédric Clapiche, on sent le malaise. Et effectivement, l'autre psychanalyste, c'est Camille Cotin, dont le personnage est tout le contraire du personnage de Berléand. C'est-à-dire que Berléand, il ne dit rien.
Ouais.
Alors que Camille Cotin, elle parle peut-être
elle
même encore
bavarde.
Plus que sa patiente.
Ouais,
quoi. Elle est très bavarde. Est-ce que vous auriez pu inverser les deux rôles, faire rencontrer François Civil à Camille Cotin et...
Oui, j'ai hésité d'ailleurs. Non, je pense que ça marchait dans les deux sens, presque. Mais je pense que c'est plus par rapport à la pathologie des deux, où j'imaginais bien qu'elle irait plutôt voir une femme et lui un homme.
Ouais. Ah, pourquoi ?
C'est vraiment, alors là je vais pas exposer.
Non, mais on se pose la question, pourquoi est-ce qu'une fille se confie à une dame et
c'est
un jeune homme
à un homme? Rapport aux histoires familiales qu'on a réglées, parce qu'on sait tous quand on va avoir un psy qu'on va parler un peu de son enfance et des traumatismes issus de l'enfance, donc c'est beaucoup lié à ce que je raconte sur le rapport au père et à la mère des deux personnages.
Alors la psychanalyse, vous n'êtes pas du tout là pour vous en moquer, parce que vous y croyez, Cédric Clapiche.
Bien sûr, ouais, j'ai une maman psychanalyste. Voilà. Donc forcément.
Et Santiago Amigurena, qui est le co-scénariste, ouais, lui aussi. Hein, il
absolument,
connaît bien
lui
le milieu.
A ses deux parents psychanalystes. Ouais.
À quoi ça sert les psys ?
Ça sert à aller mieux. C'est très simple. C'est quand on a mal aux dents, on va voir un dentiste. Quand on se sent pas bien dans sa peau, on va voir un psy. Et ne pas se sentir bien dans sa peau, ça peut être soit des graves maladies psychotiques, type la schizophrénie, la paranoïa. Ça peut être des maladies vraiment compliquées à guérir. Mais ça peut être, comme dans le film, des épisodes dépressifs. C'est-à-dire, voilà, on s'est fait larguer par quelqu'un et on sait plus comment réagir. Ou lui qui a un problème issu de l'enfance. Et il comprend pas ce qui se passe, il s'évanouit dans la rue, il arrive plus à dormir. Et donc il y a un problème très ponctuel à régler, et souvent parler à quelqu'un est plus efficace que les médicaments.
Donc un psy, ça sert à aller mieux. Est-ce que le cinéma, ça peut aussi servir à
Oui,
aller
je
mieux.
Trouve qu'il y a un vrai, je pense que d'ailleurs dans le film, il y a un peu ce parallèle entre ce que je pense du cinéma et le métier de psy. J'aurais tendance à croire que ça fait partie d'une mission des réalisateurs d'essayer d'aider les gens à aller mieux.
Ouais. Une mission, mais c'est très lourd ça.
Oui, parce que je trouve que quel que soit le type de film qu'on fait, parce que ça peut être vrai de quelqu'un qui fait un film sur la guerre ou un film sur la politique, un film de divertissement, c'est pour aider les gens à vivre. Et donc si on fait un film de Walt Disney pour les enfants, c'est pour aider les enfants à grandir ou à mûrir. Et effectivement, moi j'aime bien faire des films qui font rire et pleurer, mais surtout qui aident les gens à réfléchir.
Ça se passe boulevard Haussmann à 5h. Elle sent venir une larme de son cœur. d'un revers de la main, elle efface. Des fois on sait pas bien ce qui se passe. Pourquoi ces rivières soudain sur les joues qui coulent dans la fourmilière? C'est l'ultra-moderne solitude. Ça se passe à Manhattan dans un cœur. Il sent monter une vague profondeur. Pourtant j'ai des amis sans bye-bye, du soleil, un amour, du travail. Pourquoi ces rivières soudain sur les joues qui coulent dans la fourmilière? C'est tout d'un coup s'inonde, un revers de la main efface. Des fois on sait pas bien ce qui se passe. Pourquoi c'est
Ultramoderne solitude, Alain Souchon dans VMDN sur RFI avec Cédric Tapiche pour son film Deux mois qui sort mercredi sur les écrans français et qui nous parle justement de cette ultramoderne solitude, de la solitude de ces jeunes urbains accros aux réseaux sociaux et aux applications de rencontres sur Internet. Bonjour Sylvain Bordiec.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, merci de nous rejoindre. Vous êtes en duplex des studios de France Bleu Gironde. Vous êtes sociologue, chercheur CNRS au laboratoire Culture, Éducation, Société, maître de conférences à l'Université de Bordeaux, et vous vous intéressez de près à tout ce qui touche justement la solitude contemporaine. On parlait de ville et de campagne au tout début de cette émission avec Cédric Lapiche. Est-ce qu'il y a aujourd'hui pour vous une solitude des villes et une solitude des campagnes?
Alors ouais, c'est une question quand même assez complexe. Alors il est un peu de tradition, où il est assez habituel de considérer que la vie est moins difficile et donc il y aurait moins de solitude à la campagne. On n'a pas de résultats très 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 nets là-dessus. Je pense que c'était important de toujours replacer ces questions de territoriales, ces questions spatiales dans des questions sociales. Regarder quelles sont les caractéristiques des personnes, quels sont leur âge, leur sexe, leur genre, leur couleur de peau, leur trajectoire, bon, tous ces éléments hein, qu'on voit aussi et qui interrogent la solitude dans le film de Cédric.
Mais alors justement, la solitude, Sylvain Bordiac, c'est un problème individuel, c'est un problème que chacun d'entre nous a ou pas vis-à-vis des autres et vis-à-vis de la société, ou c'est réellement un problème collectif, un problème de société aujourd'hui?
Alors, d'un point de vue sociologique, hein, c'est un problème social. C'est une construction collective, une construction historique. Donc, ça fait des dizaines d'années hein, que les sociologues soulignent que, voilà, être un individu quelque part c'est être seul. Vous voyez, c'est expérimenter des formes de solitude, c'est expérimenter des sentiments de solitude. Donc, plus le sentiment d'être un individu se renforce dans nos sociétés occidentales, notamment, bah, plus les conditions sont réunies pour expérimenter des solitudes, pour se sentir seul. Après,
ça veut dire que la solitude serait le corollaire de l'individualisme qui progresse?
Oui, en quelque sorte, oui. C'est notre lot à tous et on s'en accommode plus ou moins bien en fonction de ce qu'on est, en fonction des ressources dont on dispose, en fonction de nos compétences. Il y a aussi à considérer les incompétences. Certains savent être parfaitement des individus, d'autres ne savent pas. Vous voyez, et cette absence de savoir savoir-faire ou de savoir-être un individu peut générer de la solitude. Vous voyez, quand vous multipliez les situations de désajustement, vous voyez, à ce qui est attendu de vous.
Cédric Lapiche, pourquoi avez-vous eu envie de creuser cette question de la solitude?
Parce que je trouve que c'est vraiment le paradoxe d'aujourd'hui, et c'est ce que je comprends de ce qu'il vient de dire. C'est par exemple, moi, quand j'étais voir un psy pour me documenter pour le film, il me disait qu'il avait de plus en plus de patients qui venaient liés finalement à le fait de passer pas mal de temps sur les réseaux sociaux. Et il me citait une patiente qui allait pas bien et qui un été n'a pas pu partir en vacances et qui du coup voyait toutes ses copines, tous ses copains qui postaient des photos sur Instagram, sur Facebook, dans des villas, à la campagne, à la mer, à la montagne, et qui du coup ça renforçait sa solitude. C'est-à-dire que le côté j'ai pas de chance, je peux pas me payer des vacances, c'était renforcé par le fait que tous les gens autour d'elle montraient des images très positives d'eux-mêmes.
Alors Sylvain Bordiac, c'est vrai qu'à force de vouloir comme ça de briller pour les autres, de montrer sa vie sur les réseaux sociaux, sur Internet, de montrer ou de faire croire aux autres qu'on a une vie pleinement épanouie, passionnante et riche, ben on finit peut-être par passer à côté.
Alors passer à côté, je sais pas. En tous les cas, c'est générateur d'angoisse. Vous voyez, enfin, il y a à considérer avec un regard sociologique encore. Hein, enfin, la violence que ça comporte de regarder la vie des autres, de regarder le spectacle de leur bonheur, enfin leur bonheur représenté, hein, sur les différents sociaux. Donc c'est une violence symbolique. Vous voyez, mais voilà, ces messages, vous parlez de vous en vacances avec vos amis, sont censés faire plaisir, sont censés donner des nouvelles, mais il y a là-dedans de la violence sociale.
Alors vous avez vu le film, hein, Sylvain Bordier, qu'est-ce que oui, les personnages de Rémi et de Mélanie, alors j'ose pas dire vous semblent représentatifs, parce que ça veut pas dire grand-chose, surtout quand on est sociologue, mais est-ce qu'ils vous semblent révélateurs de cette solitude urbaine contemporaine qu'on peut remarquer dans une ville comme Paris?
Ouais, j'ai vu le film, ça m'a passionné, d'autant plus que j'ai vécu très longtemps dans ce quartier, donc ça m'a renvoyé aussi à des souvenirs en dehors de ma vie de sociologue. Quoique, mais disons que voilà, il y a les paradoxes de la vie urbaine. On voit le personnage de Rémi venant à Paris. Il y a des espoirs dans cette venue. Vous voyez, enfin, il y a la possibilité de goûter un certain anonymat. Vous voyez, enfin, la possibilité de certaines rencontres aussi. Et ce qui est intéressant à regarder dans leur deux trajectoires, c'est l'un vient de la province, apparaît être d'origine plus populaire, tandis qu'elle est une parisienne, et enfin davantage dotée, avec plus de capitaux sociaux, plus de diplômes aussi, si on comprend bien, elle est chercheuse, tandis que lui est ouvrier, enfin opérateur. Donc là, il y a la question qui se pose d'un point de vue sociologique, et c'est intéressant à envisager, c'est est-ce que les solitudes en milieu urbain se rejoignent, est-ce que les seuls se rejoignent en dépit ou malgré leurs différences sociales, leurs différences de trajectoire.
Comment est-ce que vous avez construit ces deux personnages au niveau de leur parcours précisément, Cédric Lapiche? C'était important qu'ils viennent comme ça de milieux sociaux différents.
Oui, et avec la bizarrerie aussi, c'est qu'on suppose qu'ils gagnent à peu près le même argent. C'est-à-dire que lui, dans son travail d'opérateur, il travaille dans une espèce de grand
entrepôt,
comme on imagine étant des entrepôts Amazon ou Fnac ou.
On est vraiment dans la mondialisation.
Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que voilà, c'est les ventes par correspondance, c'est des gens qui mettent les colis, qui envoient les colis, et donc lui, il travaille là-dedans, et puis elle est chercheuse. Elle travaille sur la recherche sur le cancer, donc elle est biologiste. Et en fait, il y a une différence sociale, mais au niveau de l'argent, en tout cas, c'est des gens qui sont en bas de l'échelle, mais pas sans être à la rue, disons. Donc ça, c'était intéressant d'opposer effectivement deux mondes différents.
Est-ce qu'il y a une solitude des riches et une solitude des pauvres, Sylvain Bordiac?
Ouais, il y a une solitude des riches, une solitude des pauvres, dans la mesure où les pauvres et les riches ne sont pas dotés des mêmes ressources, des mêmes compétences. Alors moi, je m'intéresse notamment à la bah, la solitude des artistes, qu'on peut qualifier de riches, voyez. Enfin, donc les riches artistes qui peuvent avoir les moyens de la solitude, voyez. Enfin, la solitude comme un luxe, voyez. Enfin, c'est Françoise Sagan notamment qui a plusieurs fois, à plusieurs reprises aussi dans ses romans, voilà, glorifié un peu la solitude en disant que c'était important pour créer, d'avoir du temps, de l'espace, vous voyez. Enfin, après, je suis pas en train de pas dire que la solitude des riches n'est pas problématique. Je veux pas dire qu'il y a pas de souffrance chez les riches en situation de solitude, mais ce sont des solitudes nécessairement vécues différemment, vous voyez. Enfin, il y a dans le film, hein, la sollicitation des psys. Aller voir un psy, ça devient de moins en moins, comment dire, pas un privilège, mais quelque chose de très marqué socialement. Il n'en reste pas moins que on est inégaux devant un psy. Il faut aller voir le psy, mais il faut retourner voir le psy. Il faut supporter le dialogue avec lui ou supporter son silence. Sur ce plan, les pauvres sont moins pourvus en ressources.
Alors, je sais pas si vous êtes un solitaire dans la vie, Cédric Lapiche, mais puisque Sylvain Bordiac parlait de la solitude des artistes, je vais vous poser une question à ce sujet. Est-ce que, quand on vit, justement, dans un milieu artistique relativement privilégié comme le vôtre, est-ce que la solitude, vous en avez besoin? Est-ce que la solitude peut être féconde?
Alors oui, c'est effectivement le problème inverse de mes personnages, c'est que moi, la solitude, c'est ce qui me permet effectivement de créer, d'écrire.
On a vous la recherchez
de... Oui, oui, absolument. Après, là, j'ai écrit avec Santiago Amigorena, on peut rechercher de s'isoler à deux, ce qui est déjà déjà un privilège. Mais c'est vrai que c'est pas du tout la même chose que de subir la vraie solitude, où là, effectivement, il y a le problème de l'ennui, quoi, disons.
Alors, la solitude urbaine, vous en aviez déjà parlé, hein, Cédric Lapiche, en 96, dans votre film « Chacun cherche son chat » d'une façon complètement différente. Hein, mais enfin, ça se passait déjà à Paris, on n'est pas au même endroit à l'époque, on était dans le quartier de la Bastille, mais c'est quand même pas si loin que ça. Est-ce qu'on peut dire qu'en un peu plus de 20 ans, les choses ont complètement changé ?
Oui, et vraiment de façon assez claire, notamment par nos outils de communication. C'est-à-dire qu'on a tous un email depuis l'an 2000 à peu près, on a tous un ordinateur et on a tous un smartphone depuis 2010 à peu près. Donc ces deux outils-là, ordinateur et smartphone, font que on a une communication avec les autres, une communication avec le monde et une façon d'acheter qui a changé. Donc il y a le fameux clic, quoi. C'est-à-dire qu'on clique pour avoir une pizza ou pour avoir quelqu'un. Donc c'est vrai que là, alors j'aborde ça un peu dans le film sur les applis comme Tinder ou Happn, où il y a une façon effectivement de consommer des gens, quoi, et d'avoir accès aux autres, parce que c'est un peu pareil sur Instagram et sur Facebook. On sait tous qu'un ami Facebook n'est pas un vrai ami, donc il y a une espèce de confusion entre la réalité et ce monde virtuel, disons.
C'est quoi pour vous une vraie rencontre?
Peut-être quelque chose qui n'est pas décidé, qui arrive par hasard, qui accroche, on ne sait pas pourquoi.
Mais vous, ça veut dire que vous êtes contre tout ça, là, les Happn, Tinder, enfin les sites de rencontres?
Non, ça fait... Moi, je juge pas. Je suis pas là pour vous donner mon avis. Mon avis, c'est que ça fout une merde noire et que vraiment, les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a inventé de pire pour les relations sociales. Mais encore une fois, je suis pas là pour vous donner mon avis. Je suis là pour vous écouter, pour donner du sens à vos mots. Et ce que j'entends là, c'est que le fait d'avoir utilisé Tinder, ça vous a mis dans une situation de plaisir immédiat qui a fonctionné, certes, mais qui n'est pas ce que vous recherchez profondément. Et là, vous avez clairement plus envie.
Ouais, c'est vrai.
Je crois que vous attendez beaucoup plus d'une rencontre.
Alors Sylvain Bordier, je vous renvoie à la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec la psy jouée par Camille Cotin? Est-ce que les réseaux sociaux, c'est ce qu'on a inventé de pire pour les relations sociales?
Alors, je suis vraiment mal placé pour répondre à ce type de questions, vous voyez. Je pense que ça fait partie du monde social. C'est dans le monde. C'est plus seulement de l'ordre du virtuel avec une vraie vie qui serait physique, qui serait voilà matérielle. Et puis voilà, je pense que c'est à considérer comme cela. Aller plus loin dans la réponse à cette question, ça serait verser dans une certaine normativité, voilà, enfin dire comment les choses doivent être, etc. Voilà, moi mon mon regard bon, là-dessus, c'est
moi,
que
moi,
ça,
je,
ça
je,
c'est
ouais. Non, non, je suis d'accord avec vous. Hein. Je suis pas forcément d'accord avec le personnage de Camille Cotin.
Ouais.
Non, je trouvais ça intéressant que ce personnage dise ça dans le film. Et
bien
après,
sûr.
moi, je suis très consommateur de ces réseaux sociaux et j'en apprécie beaucoup de qualités. Je suis sur Instagram. J'aime bien faire appel à plein de réseaux sociaux. Donc, je suis pas que négatif sur ça en tout cas.
Alors le film s'appelle Deux Mois. On l'a pas encore dit, mais Deux Mois, ça s'écrit pas MOIS, ça s'écrit Deux Mois, MOI autrement dit. C'est aussi un film sur le narcissisme, Cédric Clapiche?
Non,
sur l'égocentrisme?
Sur l'individualité, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qui est le rapport avec la psychothérapie ou la psychanalyse dans le film, c'est que pour pouvoir parler aux autres, il faut aller bien soi-même. Et donc, il faut cultiver quelque chose d'individuel. Je pense que les sportifs le savent. On peut pas faire de performance et on peut pas, par exemple, dans un sport collectif, on peut pas être bien avec les autres si on n'est pas bien soi. Donc, c'est aussi simple que ça, quoi.
Sylvain Bordiac?
Moi, je pense que c'est la question de susciter un intérêt ou pas dans le monde social, vous voyez, enfin, en être capable. Il y a des personnes qui intéressent tout le monde, vous voyez, parce qu'ils ont les ressources requises pour cela, et d'autres personnes n'intéressent personne. Donc aujourd'hui, pour être intéressant, les réseaux sociaux font partie intégrante de cela, de cette construction d'intérêt. Il y a un élément qu'on n'a pas abordé, notamment en parlant du film, c'est la question du capital esthétique, oui. Enfin, et être intéressant, avoir une place dans le monde social, avoir des choses à raconter, hein, parler de ses passions, peut nécessiter aussi d'avoir une certaine estime de soi. Cette estime de soi, elle est liée au physique, enfin, quand même, c'est quelque chose qui compte, enfin, notamment à Paris, hein. Enfin, Paris, on a là dans le film des trentenaires, les trentenaires ne sont pas tous opérateurs, loin de là, hein. Enfin, souvent ce sont des cadres, etc. Enfin, et ça, moi, il y a un détail qui m'a frappé dans le film, c'est intéressant, c'est le look de Rémi, oui. Enfin, avec ses fringues pas bobo pour le coup, pas hipster, vous voyez. Ouais, voilà.
Il y a une injonction effectivement à être intéressant, Cédric Clapiche, ce qui passe effectivement par le physique. Alors évidemment, dans le milieu du cinéma ou dans le milieu artistique, c'est peut-être encore plus évident.
Comme il soulevait, c'est pas que dans mon milieu, c'est-à-dire que tout le monde se met en scène effectivement sur le réseau social qu'il utilise. Donc les gens au collège, au lycée se mettent en scène, les gens dans la rue, les gens qui sont politisés ou pas, on l'a bien vu avec les gilets jaunes, comment des gens essayent d'être intéressants. Je trouve que la problématique, elle est vraiment effectivement importante. C'est on essaye d'être intéressant pour les autres, et puis parfois c'est par le discours, et puis parfois c'est par le look, et donc il y a tout ce phénomène influenceur, influenceuse, les gens qui effectivement vendent un look et que ça passe par la beauté aussi, ça passe beaucoup par ça. Ouais.
Mais être intéressant, c'est une forme d'injonction qui est quand même extrêmement violente, Sylvain Bordiac.
Oui, alors violent, je sais pas, en tout cas on y est complètement tous exposés, enfin voilà, pour avoir des raisons d'exister, pour avoir des raisons de se lever le matin, pour avoir des raisons de vivre, de ne pas en finir à la vie, il faut être un minimum intéressant, vous voyez. Et pour être un minimum intéressant, il faut être intéressé par quelque chose. C'est encore une autre dimension. Dans le film, on a des gens qui ont des goûts, des passions pour la musique, pour la danse, pour les maquettes aussi, hein, je crois, de moteurs, de voitures,
ouais.
Vous voyez.
Enfin, ouais.
Donc c'est des choses qui vous font tenir dans la vie, et on est aussi inégaux devant ça.
Voilà, et on ne dira pas évidemment la fin du film, mais on dira juste quand même qu'il y a aussi justement une dimension artistique, hein, dans ce qui va se passer dans les dernières minutes de votre long métrage. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus dans cette émission. Sylvain Bordiac, merci également
merci
à nos confrères
de
France Bleu Gironde. Merci à vous, Cédric Clapiche. Une dernière petite question, puisque j'ai vu qu'il y a Paris, évidemment, au cœur de ce film. On parle beaucoup politique en ce moment à Paris. Vous allez, comme en 2014, où vous avez soutenu Anne Hidalgo, prendre position. Certains l'ont fait récemment.
Je vais voir. J'aime pas tellement, en fait, les gens, réalisateurs ou artistes qui qui prennent position. Je l'avais fait parce que vraiment j'aime bien la personne. Et là, je vais voir en fonction des programmes de chacun s'il y a quelque chose que j'ai envie de soutenir. En tout cas, je trouve qu'elle a été injustement critiquée pour plein de choses. Moi, je trouvais ça positif ce qu'elle a fait jusqu'à présent. Merci.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Et avant de se quitter, on va faire un petit tour du côté de la Basilique Saint-Denis, dans la banlieue nord de Paris, car après des années de tergiversation, c'est officiel, le chantier du remontage de la tour nord sur laquelle reposait la flèche est programmé pour l'année prochaine. Et en attendant, l'association Suivez la Flèche a mis en place un village chantier pour faire découvrir au public le taillage de pierre et la ferronnerie. Reportage de Margot Turchi.
On va rajouter un peu de charbon.
Mathieu Bonnemaison commence la démonstration. Sa loge installée au pied de la basilique a été aménagée comme un véritable atelier de forgeron.
Un forgeron a besoin de la forge, donc le foyer avec le soufflet dans lequel on va mettre du charbon de bois, et puis aussi une enclume, là où on va venir travailler le métal quand il est chaud, le fer, l'acier. Et bien sûr un marteau pour venir façonner le métal.
Accoudé à des barrières de protection, la petite dizaine de spectateurs écoute attentivement les explications de l'artisan. Après avoir ajouté le charbon, Mathieu Bonnemaison actionne son soufflet.
La température du travail du fer ou de l'acier, généralement, va être entre 800 et 1200 degrés.
Et commence à forger. Le public ne tarde pas à poser des questions.
Le fer, c'est la plupart du temps la matière première ou il y a des alliages de...
Généralement, c'est le fer ou l'acier. Ça dépend.
Échanger avec les visiteurs, c'est justement ce qui plaît à Mathieu Bonnemaison.
Pour expliquer le travail du fer, de l'acier, la fabrication des outils, un peu aussi l'histoire de ces métiers-là, hein, d'où ça vient. Moi, j'y prends du plaisir à faire ces ateliers parce que forger, pour moi, c'est une passion avant tout. J'en ai fait mon métier, c'est une chance.
Après le forgeron, c'est au tour du tailleur de pierre d'entrer en scène. Frédéric Thibault exerce ce métier depuis 25 ans. Son outil de démonstration pèse plusieurs centaines de kilos.
J'ai récupéré un bloc du XIIe siècle qui me sert de modèle, qui a été récupéré par le service archéologique lorsqu'ils ont fait des fouilles dans le square ici. C'est une pierre qui vient du bassin de l'Oise. C'est ce qu'on appelle de la croix huard. C'est un calcaire assez ferme, hein, ça éclate bien. Non, il faut taper dessus.
Sans oublier la présentation de ses outils.
Ça, c'est ce qu'on appelle des rifloirs, plutôt pour la pierre tendre aussi.
Pour la rendre lisse, quoi.
Sur la pierre tendre, ça permet d'arrondir un peu les choses, enlever les marques.
Ces ateliers de démonstration, organisés par l'association Suivez la Flèche, sont un premier aperçu du chantier de remontage de la flèche et de la tour nord de la basilique de Saint-Denis. Patrick Braouzek, président de l'association.
L'objectif, c'est d'abord de remettre en valeur ces métiers, et puis de montrer ce que ça va être une fois qu'on sera dans la phase de chantier. Il y aura une activité ici au sol importante avec l'ensemble des métiers dont on a besoin pour reconstruire, pour remonter cette flèche. Et puis c'est pour aussi commencer à sensibiliser d'une certaine manière l'ensemble de la population. On le voit avec les visites qu'on a organisées. Il y a eu 400 personnes qui ont passé cet été, qui ont vu, qui étaient très intéressées, qui sont fiers aussi de ce bâtiment et le fait de lui redonner sa figure originelle, il y a beaucoup de gens qui sont assez sensibles.
La basilique de Saint-Denis est amputée de sa tour nord depuis 160 ans. Georges Santos, administrateur de l'édifice.
En 1837, la foudre est tombée sur la flèche, elle l'a endommagée. Elle a été réparée, restaurée par le premier restaurateur qui s'appelait François Debré. Et puis malheureusement, de nombreuses tornades ont eu lieu ici dans toute l'île de France en 1842 jusqu'à 1845. Et là, la flèche ne résiste pas. Viollet-le-Duc et un jeune loup avec Mérimée prennent la suite des travaux. Et la première chose que Viollet-le-Duc fait, c'est de démonter non seulement la flèche, mais l'ensemble de la tour, parce qu'il pense que elle ne survivra pas. Donc à partir de 1860, il n'y a plus qu'une seule tour et Viollet-le-Duc ne mène pas à bien son projet de reconstruction.
Les travaux de remontage de la flèche commenceront par des fouilles archéologiques prévues au début de l'année 2020.
Reportage de Margot Turgy pour VMDN. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve demain avec la romancière Emma Becker. Figurez-vous que juste pour écrire son roman, elle est allée volontairement travailler dans une maison close de Berlin. Elle y est restée un peu plus de 2 ans et elle raconte donc son expérience de la prostitution dans ce roman intitulé La Maison qui vient de sortir chez Flammarion. Et vous m'en direz des nouvelles.